Et c'était Robert Charlebois et Mouffe, Madame Bertrand.
Oui, Madame Bertrand, Jeannette Bertrand, qui aura 100 ans le 25 mars.
Ouais.
Elle qui est née le 25 mars 1925. Mm-hmm. Incroyable. Alors, en lien justement avec quelque chose d'autre qui aura 100 ans, maintenant, on parle d'une institution, mm-hmm. mais on peut dire que Mme Bertrand, c'est une institution.
Oui.
Le Rialto.
Oui, le Rialto. C'est un article qui est paru dans le Journal de Montréal le 27 décembre 2024, 27 décembre dernier. Un article de Manon Bouchard-Dupont et Héritage Montréal. Et on dit inaugurer le 27 décembre 1924, le somptueux théâtre, un palace de quartier, comme on dit, est l'un des grands symboles de l'âge d'or des cinémas à Montréal. On utilise les deux,
ouais,
théâtre et cinéma. Ouais.
Mon père disait ça, il allait au théâtre, mais finalement, il allait voir des vues.
Oui, oui, oui. Mais c'est que beaucoup de cinémas de cette époque-là, écoute, c'était des œuvres d'art.
Palaces. Hein,
des palaces.
Ah,
et
ouais.
C'était des grandes salles de 1000 quelques places et plus. Donc, on pouvait aussi donner des concerts. Le Metropolitan Opera de New York est longtemps venu à Montréal en tournée après sa saison régulière. Il venait au printemps et il jouait souvent dans des théâtres.
Des salles multifonctionnelles,
oui,
finalement.
Oui, oui, oui. Avant d'aller au... ils ont joué après ça au Forum de Montréal.
Oui. Ouais.
Alors, le propriétaire actuel, Ezio Carosielli, en entrevue lors d'une visite au Rialto en novembre dernier, déclarait « Quand j'allais à l'Université McGill au début des années 1980, je prenais l'autobus sur la rue du Parc. Je voyais le théâtre Rialto et je me disais « Un jour, je vais acheter un immeuble comme celui-là. » Et il l'a fait. Quelques années plus tard, en 1988, c'est au Rialto qu'il invite sa future épouse, Louisa Sassano, pour un premier rendez-vous. J'ai choisi les deux films que nous allions voir, Murder by Numbers et Cowboys Don't Cry. Deux bons films, là, tu sais.
Un programme double.
Oui, mais là, attention, là, depuis ce soir-là, je n'ai plus le droit de choisir les films lorsque nous sortons au cinéma.
Ah non?
Se rappelle M. Carosielli en souriant.
Ça a été un échec.
Au fil des ans, Ezio Carosielli devient un avocat et un homme d'affaires prospère, propriétaire d'une dizaine de garderies. Et en mars 2010, il réalise le rêve d'acheter le Rialto avec son épouse. Un grand défi les attend. Conserver cet immeuble patrimonial et ses intérieurs protégés selon les règles de l'art tout en assurant sa viabilité. Alors, le théâtre Rialto est construit en 1923-24 par Raoul Gariepy, un architecte montréalais, et s'est inspiré de l'Opéra Garnier à Paris, rien de moins, et du New Orpheum Theatre, Kansas City, aux États-Unis. Le somptueux décor intérieur néo-baroque est d'Emmanuel Briffa, qui est un décorateur réputé originaire de Malte. Et le Rialto est l'une de ses premières œuvres dans la métropole et la mieux conservée au Canada. Ah, c'est à souligner. Et donc, le 27 décembre 1924, le somptueux théâtre Rialto est inauguré en présence du maire de Montréal, Charles Duquette. Tout le gratin est au rendez-vous. Près de 500 personnes se pressent aux portes au point où la police devra intervenir pour maintenir l'ordre, rapportent les journaux le lundi suivant. Alors, plusieurs artistes en vue, dont le célèbre pianiste de jazz originaire de Pointe-Saint-Charles, William Eckstein, offrent une prestation haute en couleur, qualifiée par le journaliste de la presse de « véritable fantaisie musicale ». Un film muet, « In Evening Woman's Life », en français, « La vie et la mort ont croisé le feu », avec l'actrice Virginia Valli. On présente également quelques courts-métrages comiques et comédies de Noël accompagnés avec brio par le pianiste Jean Ménard. L'auditoire sort du théâtre enchanté de la soirée et bien décidé à revenir bientôt au Rialto. Le Rialto, c'est pas seulement un cinéma. À l'origine, il est conçu comme un lieu multifonctionnel. En plus de sa salle principale de 1174 places, c'est assez imposant, il comprend deux grandes pièces pour des événements spéciaux à l'étage. Billard et espaces commerciaux au rez-de-chaussée. Il s'adapte au cinéma parlant dans les années 1930, mais l'arrivée de la télévision en 1952 annonce le début de la fin pour de nombreux cinémas de quartier, ainsi que pour des troupes de théâtre et l'opéra qui jouait à Montréal à ce moment-là, l'opéra lyrique de Lionel Daunet. À l'image du Régent, également sur l'avenue du Parc, le Rialto adapte en 1967 une programmation spécialisée adaptée à d'importantes communautés grecques du quartier. De nombreuses fêtes et mariages se déroulent aux salles à l'étage, mais le départ graduel de la diaspora hellénique vers la banlieue engendre une baisse de fréquentation. Alors, en plein déclin, le Rialto est acheté par Elias Kalogeras en 1983. Le promoteur rêve de démolir l'intérieur du cinéma, Ouch, pour aménager un centre commercial de luxe portant le nom de l'Atrium du Parc.
Ah oui?
Ouais. Alors, ce projet, évidemment, suscite l'indignation de la population et des groupes en patrimoine, comme Sauvons Montréal et Héritage Montréal, qui se mobilisent. Moi, comme je l'ai dit, je demeurais dans ce coin-là, puis je me rappelle là, des mobilisations, là, des manifestations qu'il y avait eues.
Dans les années 80?
Oui, oui, oui. En 1988, la ville de Montréal emploie les pouvoirs que la loi venait de lui offrir en 85 et cite le Rialto comme monument historique.
Bon, bravo.
Oui. En 1990, ce sera au tour du gouvernement du Québec de le classer, assurant par cela la protection de ses décors intérieurs d'intérêt. En 93, il est désigné lieu historique national du Canada. C'est dans ce contexte que le Comité des citoyens du Maryland milite pour que la ville de Montréal en fasse acquisition pour en faire un centre, communautaire interculturel. Bien que le projet reste sur les tablettes, les statuts municipaux et provinciaux protègent le Rialto et ses intérieurs de la démolition. Au moins, c'est ça. Bien que le plan de centre commercial tombe à l'eau, le propriétaire tente néanmoins de rentabiliser les espaces de plusieurs façons. Cinéma, salle de spectacle et d'événements, studio de danse, gymnase, boîte de nuit et un restaurant avec des grillades. Alors... Oui, restaurant et grillade, oui. Au tournant des années 90, le Rialto présente des films de tout genre confondus, de bac et bottines à The Rocky Horror Picture Show.
Ah, ça, c'est l'événement.
Oui. Hein. Si le cinéma ne rencontre pas le succès escompté, les spectacles de groupes de musique émergents font souvent salle comble. Alors, en rénovation, les faux-fonds électriques, j'ai toujours aimé ça, les faux-fonds électriques.
Sur Sainte-Catherine.
Ah, ouais. Ouais. Déplace ce spectacle de Nick Cave au Rialto le 13 février 1989.
Ils avaient besoin de plus d'espace.
Ouais. Mm-hmm, ouais. Et après ce premier succès, ben, les faux-fonds...
On les appelle aussi les foufs.
Les foufs, oui. Ou des producteurs comme Blast Production, DKD.
Donald K. Donald,
oui.
DK.
Oui, ou Fogel Sabourin choisissent le cinéma de l'avenue du Parc pour leur show, précise par courriel Jean-François Ayer, responsable du projet de recherche autonome Montreal Concert Poster Archive. Là, il y a un... suite de noms qui me disent absolument rien. J'aurais eu besoin de les lumières de Daniel, mais Daniel n'est pas là. Alors, Bad Brain, The Cramps, Front 242, Nidzurheb, Public Enemy, The Pixie, The Ramones et d'autres montent
The
ainsi.
Ramones.
The Ramones, bon, merci. Et d'autres montent ainsi sur scène et redonnent vie à l'ancien théâtre des années 1920. Ces groupes-là, vous disent quelque chose, vous autres?
Oui, oui.
Oui?
Oui.
Ah ben,
ben oui, évidemment. Surtout Public Enemy de Pixie et de Ramones. Mais vous, c'est la musique classique et l'opéra.
Ben c'est ça, oui. Au fil des ans, le propriétaire réalise de nombreuses interventions qui ne sont pas toutes soucieuses des décors intérieurs de BIFA, ni des règles et des permis qu'il devrait respecter. Alors, des rénovations non classées entraînent l'intervention du ministère de la Culture et des poursuites judiciaires sont entamées. Alors, des millions de dollars furent nécessaires pour rendre au Rialto son intégrité, son lustre, mais aussi réparer certaines interventions mal avisées. Ezio Carosielli refuse toutefois de blâmer son prédécesseur. Il dit qu'il revoit régulièrement M. Kalogeras et une partie de ce qu'il a accompli est positif, pendant que certains travaux qu'il a effectués ne sont pas irréversibles. Par exemple, le plancher incurvé du parterre est toujours intact sous le parquet en bois.
Tant mieux.
Donc, c'est récupérable.
Alors, une chanson, puis on continue après.
Oui, d'accord.
Serge, le Rialto à 100 ans, vous poursuivez la lecture de cet article que vous avez déniché dans le Journal de Montréal, édition du 27 décembre.
Mm-hmm. Alors, comme je l'ai dit, M. Carosielli refuse de blâmer l'autre propriétaire, M. Kalogeras, qui a fait des travaux. Mais il y a quelque chose qui a fait, M. Kalogeras, qui n'était pas vraiment
catholique.
Souhaité, oui. Il a choisi de peindre en rouge une grande partie des décors de BRIFA.
Aïe, oh!
Oui, oui.
Hérésie.
Oui. Et en bleu, Les fenêtres en façade, c'était pas si heureux. Alors, d'importants efforts ont été nécessaires pour retourner aux couleurs d'origine, on l'imagine.
Oui.
Alors, en 2010, restaurer l'immeuble patrimonial semble une tâche de titan. Alors, s'alliant à l'architecte Pierre Beaupré, grand passionné des cinémas de cette époque, les nouveaux propriétaires réalisent, au gré de leurs moyens, d'importants travaux de restauration des intérieurs. Faut saluer ça,
Oui.
Qu'ils ont fait.
Alors, on les salue.
Oui. Malgré les travaux, le Rialto reste ouvert. Pour redonner vie à un immeuble patrimonial et assurer de sa pérennité future, il est primordial d'être rentable, selon Ezio Carosielli. Pour l'homme d'affaires, le Rialto ne peut pas dépendre de subventions qui fluctuent d'un gouvernement à l'autre. Et très tôt, M. Carosielli s'occupe lui-même de la location des espaces et il le fait très bien. Il se rend compte, lui, qu'il faut diversifier, il faut être ouvert. Et le Rialto est un bâtiment extraordinaire du patrimoine montréalais. Et maintenant, en plus, il est centenaire et en pleine forme. Résume Dino Boumbarou, directeur des politiques de Héritage Montréal. Et grâce à l'entretien et aux travaux des dernières années, fait par M. Carosielli, il a le bonheur d'être un lieu vivant, notamment le soir, avec sa façade éclairée et sa belle marquise illuminée.
Tellement beau.
Oui, on voit de la rue qu'il se passe toujours quelque chose dedans. Et fort de cette première réussite, le groupe Carosielli fait l'acquisition d'autres immeubles patrimoniaux vulnérables pour en faire des salles de spectacle et lieux événementiels, mettant ainsi en valeur leurs intérieurs remarquables. Et c'est ainsi que l'édifice grandiose de la Banque canadienne impériale de commerce, dans le Vieux-Montréal, devient le Théâtre Saint-James. J'y suis jamais allé, je devrais le faire. L'église Saint-Vincent-de-Paul, dans le centre-sud, prend le nom de Théâtre Cartier. Alors, à 100 ans, le Rialto, est la plus jeune de nos acquisitions. Le patrimoine, c'est ce qu'on lègue à la génération suivante. Nous avons eu de nombreux défis de restauration, c'est vrai, et ce n'est pas encore terminé, mais il ne faut pas tout faire. Il faut laisser la chance à la génération suivante de relever leurs propres défis, conclut M. Carosielli en souriant. Alors, pour mieux connaître les démarches pour sauver les théâtres patrimoniaux montréalais depuis les années 1970, lisez l'article d'Héritage Montréal « Quel avenir pour nos anciens théâtres » publié ce week-end, le week-end du 27 décembre, sur le site web du journal.
Merci beaucoup, Serge. On poursuit avec nos collaborateurs du mercredi. On salue Daniel Lachance, qui sera probablement avec nous la semaine prochaine. Et il y a Isabelle Falardeau qui est au bout du fil. Serge en studio, Serge Bradet, vous avez quelques brèves, entre autres, les attractions les plus visitées du monde.
Exactement. Il y en a
les
trois.
Les pyramides d'Égypte? La Tour Eiffel?
Non.
Je suis dans le champ.
On commence par le Strip à Las Vegas.
Ah oui.
Ouais. Nombre de visiteurs par an, 40 millions.
Ouais, c'est du monde,
ça. Wow. Même si elle ne fait que 6 kilomètres, l'artère principale de la ville du Péché abrite plus de 30 casinos, la célèbre fontaine de Bellagio et une grande roue. Récemment, à la Sphère, un amphithéâtre immersif a été ajouté en périphérie et près de 75 % de tous les visiteurs à Las Vegas séjournent dans un hôtel situé sur le Strip. Des copies...
La Strip.
Ah, il a marqué sur le Strip. Ah. La Strip. Oui, ils l'appellent le Strip, eux autres.
Ah oui, OK.
Ouais.
Ah, parce que la Strip et le Strip, c'est deux choses différentes. La Strip, c'est plutôt peut-être une stripteaseuse, je ne sais pas.
Peut-être.
Ouais.
Des copies des plus grands attraits touristiques s'y trouvent. Une tour Eiffel, une pyramide d'Égypte, un canal de Venise et même une statue de la Liberté. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Je ne suis jamais allé, moi, à Las Vegas. Vous autres, êtes-vous allé quelqu'un?
Non. J'aimerais ça y aller un jour.
Moi, je suis allée à Las Vegas.
Pardon?
Je me suis mariée.
Ah oui,
aïe.
Eh oui, un service à l'auto.
Toute une expérience. Faudrait nous raconter ça un jour, Isabelle.
Oui.
Alors, le deuxième site le plus visité, encore aux États-Unis, Times Square à New York.
Ah oui.
39 millions de visiteurs par an. Cette place formée par l'intersection de Broadway et de la 7e Avenue s'étend de la 42e à la 45e rue. Et au tournant du 20e siècle, un bon nombre de grands théâtres ont été créés sur la 42e rue. Au cours des années 1920, Times Square était le quartier de divertissement le plus célèbre du pays. Aujourd'hui, on y trouve des panneaux lumineux géants, créant un ensemble visible de l'espace même, et ainsi qu'un large éventail de restaurants et de boutiques. Le troisième site le plus visité au monde, savez-vous, auriez-vous
une idée? Encore pas les États-Unis?
Non, Canada.
Aha. Ah, les chutes Niagara.
Les chutes du Niagara, oui. Nombre de visiteurs par an, 23 millions. Il y a beaucoup de visites. Hein? Cette merveille de la nature ne fait que 50...
Destination honeymoon.
Oui. Cette merveille de la nature ne fait que 50 mètres de haut, mais ses cascades sont très impressionnantes. Elles sont parmi les chutes les plus puissantes du monde, avec un débit de 1,8 million de mètres cubes d'eau à la minute. Elles sont composées de trois sections distinctes et chacune est bien éclairée de lumière colorée en soirée.
L'avez-vous déjà...
Non, ça manque à ma culture. Non, j'aimerais ça y aller.
En vrai.
De nombreux visiteurs s'en approchent grâce aux excursions offertes en bateau. Il me paraît que c'est vraiment
impressionnant.
Quelque chose à faire. Oui, ouais. Oui, oui, oui.
Quelque chose à voir, quelque chose à faire.
Encore
quelques secondes, oui, Serge.
Qui a breveté la ceinture de sécurité? L'homme à qui l'on doit la ceinture de sécurité n'est autre que Nils Bahlin, un ingénieur chez Volvo. L'entreprise suédoise détentrice du brevet pour la ceinture de sécurité à trois points d'ancrage était consciente que celle-ci allait sauver des vies à l'échelle mondiale. Et la firme a donc autorisé les autres constructeurs à exploiter gratuitement son brevet. C'est rare, ça. L'invention qui a fêté ses 60 ans en 2019 sauve une vie toutes les 6 minutes.
Et c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir. Mm-hmm. N'oubliez pas d'attacher votre ceinture. Il y en a qui ne l'attachent pas encore.
Ouais.
Merci Isabelle, merci Serge. À bientôt.
Bye.